L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Benjamin Petrovert, journaliste, chanteur et pianiste pour un événement au profit du Keren Hayasod. Ce sera à Strasbourg le dimanche 7 décembre à 17h. Un événement hybride intitulé News et Music avec une conférence qu'il anime, Israël, penser l'avenir après le 7 octobre et un extrait de son spectacle musical de Paris à Tel Aviv. Benjamin Petrovert, bonjour.
Bonjour Valérie et bonjour à tous vos auditeurs.
Alors on vous connaît journaliste d'abord radio sur Europe 1, puis télé sur I24 News, je la fais courte. On vous découvre aujourd'hui chanteur et musicien et qui plus est interprète en français mais aussi en hébreu. Comment s'est passée cette transition ou est-ce que vous avez toujours été et chanteur et journaliste ?
Oui, c'est vrai qu'au premier abord, ça peut surprendre, hein. Mais j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours joué au piano, et lors de mes années à Tel Aviv, j'ai découvert que là-bas, tout le monde fait deux métiers, parce qu'en Israël, beaucoup de gens simplement ne peuvent pas se substanter avec un métier, ils en font un deuxième, et quand je suis arrivé à I24 News, j'étais assez surpris de découvrir, en passant dans les couloirs, que un caméraman était le soir guitariste, un technicien était le soir DJ dans des rave parties, etc., etc. Et donc je me suis dit, pourquoi moi je ne pourrais pas assouvir aussi mes passions et ma passion première qui est la musique. Et donc je me suis mis à Tel Aviv à donner un concert, deux concerts, trois concerts dans un café que beaucoup de Tel Aviviens connaissent, qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait le café Bialik. Et le premier soir où j'ai donné un concert, il y avait une queue devant la salle. J'ai dit, mais tous ces gens sont venus pour moi. Oui. Donc, on a fait un concert, deux concerts. On s'est mis à en donner à Tel Aviv, à Ashdod, à Natania, à Jérusalem, à Ranana. Et j'ai commencé à faire un peu le tour du pays. Et il y a un an en France, je me suis lancé le même pari, principalement à l'Écuge. Et je remercie Gadi Bgui, le patron de l'Écuge, d'avoir ouvert ses portes. Et pareil, le premier soir, le public était au rendez-vous. Ça a été absolument merveilleux. Et il y a encore quelques jours, j'ai donné un concert à la mairie du 16e, à Paris, où le public était là. Autant vous dire que je suis absolument impatient de venir donner ce concert à Strasbourg.
Alors, votre répertoire, c'est un pont entre deux cultures, la chanson française traditionnelle, la chanson en hébreu. L'idée, c'est de réunir vos deux mondes, ce qui fait de vous Benjamin Petrovert aujourd'hui.
Oui, je raconte mes voyages entre Paris et Tel Aviv. Et donc, dans ces voyages, eh bien, je prends dans mes valises toutes les chansons qu'on a aimées en France et qui sont arrivées jusqu'en Israël, pour certaines en français, pour d'autres traduites en hébreu. Je chante, par exemple, La Bohème en français et en hébreu. Je chante C'est un bon roman, c'est une belle histoire en français et en hébreu. Je chante du Jacques Brel en français et en hébreu, etc., etc. Il y a un très grand répertoire de chansons françaises qui est arrivé en Israël, mais traduite en hébreu. Donc je les chante dans les deux langues, et comme j'ai aussi ma casquette de journaliste, je peux m'empêcher de raconter beaucoup d'anecdotes entre les chansons. Et inversement, je chante aussi les grands tubes israéliens qui sont arrivés jusqu'en France et qui, pour certains, ont été traduits en français, principalement les chansons de l'Eurovision. Haï, je la chante en français et en hébreu. Alléluia la Olam, je la chante en français et en hébreu, etc., etc. Bref, que des grands tubes qu'on connaît, mais à chaque fois, j'essaie de les marier dans les deux langues pour faire le pont et ce trajet en avion entre Paris et Tel Aviv.
Donc un moment convivial et populaire. Mais juste avant ça, ou juste après ça, vous animez également une conférence qu'un sujet plus lourd, Israël, penser l'avenir après le 7 octobre. Comment est-ce qu'on fait une transition justement entre ce moment festif, la musique et cette conférence ?
Alors ça, c'est une idée de Sophie Atlan du Keren Hayasod que je salue, parce que je suis toujours extrêmement heureux et fier de faire ces événements avec le Keren Hayasod, qui, comme vous le savez, mène une action absolument essentielle. L'idée, c'est de venir à Strasbourg, non pas avec tous mes musiciens, parce que c'est un spectacle que j'ai donné à Paris avec plusieurs musiciens, mais d'en jouer quelques extraits. De jouer des extraits de mon spectacle, je serai en piano-voix, ce sera une autre ambiance. Et puis à côté, de reprendre aussi ma casquette de journaliste, parce que ce qui se déroule en ce moment ne peut nous laisser indifférents. Et donc je vais proposer aux spectateurs une conférence, mais aussi un échange, parce qu'on parlera ensemble, sur les conséquences du 7 octobre, à la fois pour Israël, mais aussi pour les communautés juives du monde entier, parce qu'il y a énormément de réflexions à avoir, il y a aussi beaucoup de questions que l'on se pose, et je vais donc non pas apporter de réponses, parce que bien malin celui qui pourra avoir des réponses, mais en tout cas je vais apporter des pistes de réflexion sur le monde de demain qui se dessine, à la fois pour Israël, pour son environnement géopolitique et géographique, mais également pour les communautés juives de diaspora.
Alors, c'est une soirée, vous le disiez, au profit du Keren Hayesod. Alors, pourquoi précisément, vous, cet engagement au profit de cet organisme-là?
Vous savez que c'est l'un des premiers organismes avec le KKL qui a existé dans le pays. Et moi qui ai vécu et qui ai travaillé pendant 8 ans en Israël, à Tel Aviv, j'ai vu l'importance de ces organismes à l'étranger. Et maintenant que je suis retourné en France, et bien je considère qu'il est important de relayer le message, de relayer aussi leurs appels. L'appel du Keren Hayesod est très important aujourd'hui, et d'ailleurs de toutes ces associations, parce qu'elles font un travail essentiel pour permettre, eh bien simplement, de développer le futur du pays, le futur d'Israël, et d'apporter un avenir à ce pays qui a été horriblement, tragiquement secoué par le 7 octobre, mais qui, comme on l'a vu, a su aussi se relever très rapidement et qui va se relever différemment. Et au fond, c'est ça le sens de ma conférence que je vais donner chez vous, c'est de dire quel est le pays qui va se dessiner maintenant, quel est l'Israël qui va se reconstruire 2 ans après le 7 octobre. C'est un pays qui aura une mentalité différente, une structure différente, et peut-être qui verra son environnement aussi de manière différente, avec aussi, je dois le dire, une forme d'optimisme. C'est ce que je vais tenter d'apporter dimanche.
Alors, vous êtes entre les deux pays, Israël, la France. Vous étiez où précisément, vous, le 7 octobre 2023?
Alors, hasard de la vie, je suis rentré à Paris quelques jours avant, puisque le 7 octobre a eu lieu, comme on le sait, pour le jour de Simchat Torah, et je suis rentré à Paris pour Rosh Hashana, pour fêter Rosh Hashana avec ma mère à Paris. Donc, j'étais à Paris. Très tôt ce matin-là, je ne pouvais pas dormir parce que j'entendais mon téléphone à côté de mon lit qui n'arrêtait pas de vibrer. Et je ne comprenais pas pourquoi le téléphone qui était à côté de moi vibrait, alors qu'il était 6h du matin. Et en fait, c'était mon groupe, le groupe WhatsApp, où tous les journalistes de la chaîne I24 News apportaient des éléments, eh bien, où il y avait message sur message sur message. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait 150 messages. J'ai dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe un samedi matin pour qu'il y ait 150 messages dans mon groupe WhatsApp? Et puis j'ai tout de suite vu les horreurs, les atrocités, et quelques minutes plus tard, j'ai eu un coup de fil de BFM TV, et j'ai été toute cette journée-là sur BFM TV à essayer de faire comprendre, moi-même de comprendre, oui, ce qui se passait, parce que c'était absolument invraisemblable. Si vous vous souvenez, au début, on nous parlait d'une rave party où il y avait eu des Palestiniens qui étaient arrivés, ensuite on a découvert qu'il y avait des bases de l'armée attaquées, ensuite que dans les kibboutz, il y avait des fusillades. Bref, minute par minute, on découvrait l'ampleur de cette horreur, et j'essayais bien d'expliquer aux téléspectateurs français ce qui se passait, parce que le français moyen ne sait même pas ce que c'est un kibboutz. Il fallait lui expliquer, lui raconter c'est quoi ces villages qui sont dans le pourtour de Gaza et comment ils sont protégés.
Alors, en termes de communication, aujourd'hui, vous, votre regard de journaliste israélien, sur, on va dire, sur la communication, justement, de ce conflit, et le narratif qui s'est inversé pour un grand nombre de la population française, peut-être pas tout le monde, j'espère d'ailleurs que, effectivement, aujourd'hui, on va dire que l'expression « l'escalier prend toujours l'escalier », on va pouvoir entendre une réalité et des choses factuelles, mais il y a quand même eu un narratif qui s'est inversé, contrairement aux grands attentats du 11 septembre ou du 13 novembre ici en France.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans votre question. Ce sera d'ailleurs une partie de ma conférence, donc j'invite vos auditeurs à venir. Je pourrais y répondre bien plus longuement. Il est clair qu'il y a, depuis le 7 octobre, une guerre des narratifs absolument féroce. Cette guerre se joue sur les radios, sur les télés, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, énormément. Et on sent bien qu'au fond, l'empathie qu'il y a eu vis-à-vis d'Israël après le 7 octobre, c'est très très rapidement estompé, c'est très rapidement éteinte. Si vous refaites le fil et la chronologie des événements, je crois que dès le 8 ou le 9 octobre, certains ont déjà parlé de génocide des Palestiniens, alors que la riposte israélienne n'avait même pas officiellement commencé. Donc oui, il y a une guerre des narratifs, elle se joue partout, elle est loin d'être terminée, et malheureusement, il va falloir lutter pour faire simplement connaître, et là c'est le journaliste qui parle,
oui,
faire connaître la vérité des événements. Voilà, parce qu'on voit que 2 ans après, le 7 octobre, il y a beaucoup de mots extrêmement accusateurs, extrêmement violents, qui ont été dits et répétés à outrance, le mot de génocide, le mot de famine, et puis on découvre aujourd'hui que des instances internationales très officielles disent « Ah ben non, en fait, il n'y a rien eu ». Bah écoutez, merci, mais pendant 2 années, c'est un pays qui a été traîné dans la boue et accusé par des instances officielles, relayées dans des médias du monde entier. Tout ça pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a des groupes qui ont cherché sur les réseaux sociaux à disséminer une propagande extrêmement violente, extrêmement agressive, qui a fait son bonhomme de chemin, je dirais, malheureusement.
Donc ce sera évidemment au cœur de votre conférence qui aura lieu, je rappelle, le dimanche 7 décembre à 17h. Pour l'endroit, c'est au moment évidemment de l'inscription que l'adresse sera communiquée tout simplement. Le tarif est de 50 euros pour participer à ce moment festif et ludique, donc avec des extraits de votre spectacle de Paris à Tel Aviv et évidemment la conférence Israël, penser l'avenir après le 7 octobre. Benjamin Petrovert, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose de retrouver maintenant,
merci,
depuis le bureau de Jérusalem, Carole Wachnin du Karen Ayassod. Merci à vous.
Merci à vous, voilà, et je vous attends.
Bonjour Carole.
Bonjour Valérie.
Alors je rappelle Carole Wachnin du bureau de Jérusalem du Karen Ayassod. Pouvez-vous nous faire la présentation de cette grande dame qui, cette, oh là 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 là. Pouvez-vous nous faire la présentation de cette grande dame qui fête cette année ses 105 ans?
Oui, alors le Karen Ayassod, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, a fait partie des organismes, des institutions fondatrices de l'État d'Israël, créées à Londres en 1920 par le congrès sioniste qui se réunissait à Londres à cette époque-là, et suite à la déclaration Balfour pour donner les moyens à ce peuple juif dispersé dans toutes les diasporas de construire une maison, un Jewish homeland, une patrie pour le peuple juif sur la terre d'Israël. Collecter des fonds pour construire des routes, des villes, des villages, des universités, puisque l'université hébraïque de Jérusalem a été construite en 1926 grâce aussi à des fonds qui ont été ramassés par le Karen Ayassod. Avant d'avoir un pays, avant d'avoir un gouvernement, on avait une université, on avait un hôpital, on avait un orchestre philharmonique, un peuple de culture et de paix qui veut construire pour l'humanité des belles choses. Voilà, c'est ce qu'on fait en Israël, c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Le Karen Ayassod a toujours été là pour aider financièrement, le bras financier du mouvement sioniste.
Alors vous avez beaucoup de programmes sociaux aujourd'hui en direction de tous les membres, hein, de la société israélienne, beaucoup en direction des jeunes. Il y a des urgences aujourd'hui, il y a des urgences qui sont devenues la nouvelle mission du Karen Ayassod.
Bah, écoutez, notre mandat a toujours été de soutenir l'agent juif et la Aliya et l'intégration et le social, la périphérie géographique du pays. Et en cas de crise, en cas de guerre, on a soutenu aussi l'urgence toujours. Quand il a fallu créer des abris, quand il a fallu aider les victimes du terrorisme, quand il y avait les bombes en Israël, dans les autobus, etc. Le Karen Ayassod a toujours été là grâce au soutien des communautés juives de partout dans le monde et spécifiquement en France aussi, évidemment. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, il n'y a que de l'urgence en Israël. La plus grande urgence, c'est aujourd'hui, en décembre 2025, novembre-décembre 2025, nos otages sont pratiquement revenus. À l'heure où je vous parle, il nous en reste deux. Un d'origine thaïlandaise et un autre, le dernier policier qui est retenu à Gaza. Les otages sont rentrés. Et on a des cessez-le-feu, plus ou moins. Et on a à reconstruire toute la nation. Le post-trauma est énorme, le post-traumatisme est énorme. On parle aujourd'hui d'un pays entier qui est sous post-trauma. Les enfants, bien sûr, 20 000 enfants qui ont été touchés physiquement ou psychologiquement, qui ont été recensés. 21 000 élèves qui avaient été relogés, qui ont changé d'école, de quartier, qui sont les enfants du Sud, les enfants du Nord, qui ont passé une période en dehors de la maison. 90% des gens du Sud sont revenus. Ce n'est pas le même cas de figure dans le Nord. On n'est qu'à 60 ou 70% de la population qui est revenue dans le Nord, donc toujours des délogés, toujours beaucoup de villes comme Kiryat Shmona qui sont en très très mauvaise situation. On a les 20 000 blessés de guerre, beaucoup de jeunes blessés, les soldats et les réservistes qui sont blessés soit physiquement, soit psychologiquement. Et puis tout l'entourage de tous ces morts. On a eu énormément de morts. On a eu près de 2000 morts depuis le 7 octobre, entre les 1200 du 7 octobre puis la suite des soldats qui ont été tués. Énormément de familles qui sont touchées, moi-même.
Oui.
Et comme vous le savez, mon gendre a été tué, puis le frère de ma belle-fille a été tué. Ça fait deux. En 8 jours d'écart, nous avons eu deux grosses pertes dans la famille et moi-même, je m'occupe de mes deux petites filles, donc 4 ans et 2 ans, et de ma fille, bien sûr. Et sur le plan personnel, je pourrais vous raconter que la situation est très difficile. La gosse de 4 ans qui commence à peine à comprendre en fait ce qui se passe, puisque ça s'est passé quand elle avait 2 ans. Et qui se trouve dans une situation où, bien sûr, elle est accompagnée par des psychologues, et ma fille aussi est accompagnée par des psychologues, et moi-même, je suis accompagnée par des psychologues. Oui. Pour gérer la situation, les crises de larmes, les crises d'hystérie, les phrases d'une gosse de 4 ans, entendre « Abba Shelly Met, mon père est mort », ou bien dans la voiture samedi soir, juste pour vous raconter comme ça, pour vous raconter ce qu'on vit samedi soir, je les ramène à la maison chez leur maman, après Shabbat, il fait nuit, et elles sont assises les deux chacune dans une chaise d'enfant, et puis la petite qui a 2 ans commence à jouer avec sa ceinture, et la grande qui a 4 ans commence à crier, je lui dis « mais pourquoi tu fais ?» Elle me dit « elle est en train d'ouvrir sa ceinture, elle va s'envoler dans le ciel, elle va mourir, elle va être comme papa, elle va mourir comme papa, il a pas accroché sa ceinture, c'est pour ça qu'il est mort. » Et je lui dis « mais non, chère, tout va bien, elle va pas décrocher. » Si, si. Et la petite qui commence à hurler et à pleurer dans la voiture, j'ai dû arrêter la voiture pour essayer de calmer le jeu, etc. Ça, c'est un exemple parmi 10 000 exemples. Ou bien ce matin, je me suis allée. J'ai dit, je vais commencer ma journée au café à côté du travail. Je prends mon café, j'ouvre mon ordinateur. Je vais commencer avant d'arriver dans le bruit du bureau. Je vais régler quelque chose de très important. Et à la table à côté de moi, se sont assis des jeunes avec un petit bébé tout nouveau-né dans son berceau tout neuf. Et puis, ils se sont assis. Il y avait le mari, la femme, la sœur. Il y avait au moins 8 personnes. Puis de quoi ils ont parlé? Ben, ils ont parlé que des gens du 7 octobre qui connaissent dans le sud du pays et comment il a réagi, comment il est sorti, comment il s'est battu, comment il est rentré, comment il est ressorti. Ce n'était que ça la conversation. Il était 8h du matin à Jérusalem. Je voulais 5 minutes me concentrer sur mon travail tranquillement. Impossible. Tout le pays vit le 7 octobre. Voilà.
Et vit ce traumatisme. Et nous, notre façon de pouvoir vous aider depuis Strasbourg, ici, c'est de vous apporter du soutien, évidemment du soutien financier pour reconstruire le pays, pour apporter un soutien psychologique. Comment est-ce qu'on peut vous donner? Alors, on va parler évidemment de cette soirée. On a eu juste avant vous Benjamin Petrovert au téléphone. Mais comment est-ce qu'on peut donner, en dehors de la soirée déjà, au Keren Hayesod?
Alors, d'abord, il y a la soirée. À la soirée, vous êtes cordialement invité pour venir et passer une soirée agréable et soutenir Israël. Et puis, sur le site du Kerana Yesod de France, évidemment, keranayesod.fr, vous pouvez faire vos dons. Et là-bas, il est expliqué, on peut envoyer des chèques, on peut envoyer des virements bancaires. Tout est très bien expliqué sur le site du Kerana Yesod de France. Et voilà, on compte sur vous, la communauté de Strasbourg et des environs. Israël est dans votre cœur, Israël vous intéresse. Israël fait partie de votre quotidien, même si vous êtes à 5000 kilomètres. Et pour continuer ce lien, pour continuer l'unité du peuple juif, on doit continuer à travailler ensemble. Alors oui, c'est vrai, on n'est pas en bonne situation. C'est vrai que Israël va devoir remonter la pente. On va remonter la pente. On va redanser. Mais pour cela, il faut, je dirais, reconstruire la piste de danse qui a été bien endommagée le 7 octobre. Il faut qu'on arrive à guérir les blessures, à redonner confiance aux enfants, à soutenir tous ceux qui ont besoin d'être traités de ce post-trauma. On a d'ailleurs des centres de post-trauma partout, dans les hôpitaux, bien sûr, à Ichilov, à Dinegev, et les programmes pour enfants, des villages de jeunes, tout le monde sait qu'il doit traiter ce post-trauma. C'est énormément de besoins. Je le redis encore, si vous voulez faire la LIA, devenez psychologue avant, vous aurez beaucoup de boulot en Israël. Donc voilà, et on va reconstruire, mais on a beaucoup de travail devant nous, en espérant qu'on ait la paix, ce qui n'est pas gagné d'avance non plus. C'est pas parce qu'on a des cessez-le-feu qu'on est à l'abri d'autres attaques. On le sait, nos ennemis se réarment, nos ennemis ne changent pas, ne deviennent pas nos amis si facilement. Et donc il faut reconstruire et il faut renflouer les ressources pour être prêt malheureusement à un prochain tour. J'espère qu'il ne viendra pas, mais on n'est pas très optimiste ici.
Écoutez, on le souhaite également, et évidemment, et aujourd'hui la priorité évidemment, c'est l'humain, c'est le social. Aujourd'hui, la reconstruction, vous l'avez dit, de toutes ces personnes qui demain, l'image était très belle, hein, pourront danser à nouveau. Donc on va juste évoquer un dernier mot. Donc c'est le 7 décembre à Strasbourg, l'après-midi. Voilà. J'imagine que le lieu sera communiqué au moment de l'inscription.
Voilà. C'est quand on rentre dans la publicité qui a été publiée dans le Shabbat Shalom. Je pense qu'il y a un poster à la communauté aussi. Et sur le WhatsApp, les gens reçoivent le lien. Et s'ils reçoivent le lien, ceux qui ont reçu le lien, je vous engage à le diffuser, à l'envoyer à vos amis. S'il vous plaît, aidez-nous à transmettre l'information. C'est important pas aussi de pas seulement garder l'information pour soi, mais de la transmettre à nos amis, à nos familles, afin qu'on affiche complet et qu'on sente... Et puis je voudrais aussi, si j'ai encore une petite minute, je voudrais remercier la communauté de Strasbourg, parce que la semaine dernière, il y a eu un événement très, très, très chaleureux. C'était les bar mitzvot des enfants de Ofakim et de Mahalot, donc une ville du sud et une ville du nord. Il y a 120 enfants qui sont arrivés à Jérusalem, au Kotel, et avec leurs parents. Et grâce au partenariat avec le Consistoire de France et M. Élie Corchia, qui a remercié la communauté de Strasbourg pour son soutien à cet magnifique événement des bar mitzvot et des bat mitzvot des enfants du sud et du nord. Alors moi, personnellement, je voudrais aussi remercier la communauté de Strasbourg. C'était très beau. Il y a une dizaine de communautés et le Consistoire qui se sont associés au Kerana Yesod pour cet événement. C'était très beau. Et voilà, vous avez fait un très beau geste. Continuez à œuvrer pour Israël. Ça réchauffe le cœur. Les enfants étaient heureux. Et de savoir qu'il y a ce lien indéfectible entre le peuple d'Israël en Israël et le peuple d'Israël en dehors d'Israël, c'est absolument notre sort. Voilà.
Carole Wacknin, on vous a entendu. Merci pour vos remerciements. Merci à vous également pour votre œuvre au long cours au profit de cette population qui en a tant besoin. Je rappelle la date du dimanche 7 décembre. Bah, c'est là, c'est dans quelques jours, à 17h à Strasbourg, et un moment de partage et d'échange autour de la conférence de Benjamin Petrover, Israël, penser l'avenir après le 7 octobre, et de musique avec un extrait de son spectacle de Paris à Tel Aviv. Merci à vous.
Merci Valérie. Shabbat shalom à tout le monde.
Shabbat shalom.